Eh bien, bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus pour cette journée de conférence et pour ce festival photorévolté dédié aux luttes photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières, et aussi aux luttes paysannes et environnementales. Alors, quelques points pratiques qu'on m'a proposé de rappeler. Il y a une exposition dans le gymnase à côté, vous pouvez aller la voir, plusieurs expositions photo. Pensez, si vous le pouvez, à mettre de l'argent dans le pot commun sous le barnum à l'entrée, puisque c'est un festival sans subvention publique. Donc on compte sur la participation de tous et toutes. Je devais sûrement avoir autre chose à rajouter que j'ai oublié. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'agriculture paysanne, de ses luttes passées, présentes et futures. Ce qui a amené à proposer cette table ronde, c'était un postulat que la Coordination nationale photorévoltée fait, c'était que si les paysans et les paysannes pouvaient vivre dignement de leur métier, pas un seul hectare de photovoltaïque n'irait sur des terres agricoles naturelles et forestières. Et donc on a voulu s'intéresser à ce qu'était l'agriculture paysanne, d'où elle vient, quelles étaient ses luttes passées, actuelles, et comment elle pourrait évoluer. Alors pour parler de ça, on a Jean-Philippe Martin, historien de la gauche paysanne, qui va présenter toute une partie historique et actuelle de l'agriculture paysanne. Christian Roquerol, de la Conf Aveyron et historique de la lutte du Larzac, et aussi tu as été au comité national de la Confédération paysanne. Laurence Marandola, paysanne en Ariège, ex-porte-parole nationale de la Confédération paysanne et actuellement au comité national. Et Sébastien Persec, ex-porte-parole de la Conf Aveyron et actuellement au comité national aussi. Voilà, je ne serai pas plus long et je passe la parole à Jean-Philippe.
Oui. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis chargé donc de faire un retour vers le passé, essentiellement de luttes dans lesquelles d'un courant qui s'appelait les paysans travailleurs a joué un rôle important et une personne qui s'appelait Bernard Lambert a joué un rôle important. Alors on va pas voir toutes les luttes, mais juste trois axes. Une lutte pour le revenu, c'est ce qui s'appelait la grève du lait en 1972 en Bretagne. Des luttes foncières dans l'Ouest. Enfin, une lutte contre une firme intégratrice. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a bien connu, qui est présent dans la salle, hein, contre Safik ou Wessafik, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de repérer s'il y a des points communs, des différences, comment on s'y prend, etc. Je vais essayer de présenter qui agissait, quels étaient les adversaires et les thèmes et les actions, les moyens d'action. Alors, la première lutte, c'est une lutte pour le revenu. Nous sommes, il y a plus de 50 ans, en Bretagne. C'est donc des éleveurs de lait. des éleveurs qui, et surtout des éleveuses d'ailleurs, on le verra, qui vont protester contre la baisse du prix du lait au printemps 1972. Ça doit se passer au mois de mai à peu près, hein, je n'ai plus en tête le jour précis. Hein. Ils refusent la baisse saisonnière. Et donc, à ce moment-là, ce courant qu'on appelait paysans travailleurs, un des ancêtres de la Confédération paysanne, était très fort dans le Finistère, dans le Morbihan, en Loire-Atlantique, etc. Et donc, ils avaient préparé depuis un moment toute une argumentation. Le prix du lait, c'est notre salaire. Le travail paysan doit être rémunéré, etc. Bon, quelque chose qui était assez ouvriériste, mais pas au sens péjoratif du terme, hein, en disant que finalement les paysans devaient être payés pour leur travail. Voilà. Mais d'une certaine manière, ils ont été débordés par un mouvement qu'ils ont impulsé, mais qui les a dépassés, auquel ils ne s'attendaient pas, peut-être en particulier dans deux départements, le Finistère et le Morbihan, un peu moins en Loire-Atlantique et en l'Ille-et-Vilaine et en Côte du Nord ou d'Armor, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et donc les paysans, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils demandent une hausse du prix du lait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bloquer les camions dans un petit village à la limite des camions de lait, hein, dans un petit village à la limite des Finistères et du Morbihan. Ils vont faire des manifestations. Et la première, il va y avoir des manifestations de femmes à plusieurs reprises. Et ils vont entrer dans les laiteries. Donc l'adversaire, c'est les laiteries. Et pas forcément le gouvernement à ce moment-là, si vous voulez, les laiteries. Et ils vont rentrer, alors pour vous dire le type de moyen d'action qui aujourd'hui, on serait quand même surpris. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, c'est dans le Finistère, la très grande laiterie coopérative, ils séquestrent, ils retiennent des responsables, ils barbouillent leur voiture de beurre et ils prennent les gars la nuit et ils les laissent quelque part. Voilà. Bon, voilà, vous voyez des choses, bon, quand même, qui sont surprenantes. Et alors, ce qui est complètement nouveau, outre l'action des femmes que vous évoquerez ce soir dans le débat, c'est que ces laiteries, elles peuvent être privées, mais elles sont coopératives aussi, certaines d'entre elles. Et donc, ça va entraîner des tensions entre agriculteurs, entre producteurs, ce qui explique peut-être que ça ne va pas s'étendre dans tous les départements bretons. Et on peut dire que la grève du lait est le moment où De Baptiste, etc., les dirigeants de du CNJA et de la FNSEA se disent ça, il ne faut pas que ça se reproduise, il ne faut pas que ces paysans travailleurs prennent la direction d'un mouvement, de syndicats, etc. Et quelques mois plus tard, ils vont cartonner ces paysans travailleurs qui, bon, en les traitant de dangereux révolutionnaires, etc., ils vont faire une brochure. Voilà. Donc, vous voyez, il y a du nouveau. C'est à la fois l'action des femmes, c'est le fait de mettre en cause les coopératives, hein, peut-être qu'il y aura le débat tout à l'heure, et c'est l'idée de mener des actions à la base directe, y compris par le blocage des camions de lait. D'accord ? Alors, ça va se terminer par des négociations où le gouvernement intervient, ça va donner lieu à une augmentation des prix qui va être petit à petit rognée. Et puis, quelques années plus tard, certaines paysannes travailleuses vont dire que ça a été une parenthèse, mais où les habitudes sont vite revenues. Deuxième type de lutte, ça fait un peu catalogue, mais c'est des luttes autour de l'accès à la terre. J'essaie de faire ça à 5 minutes chacune. L'accès à la terre, c'est-à-dire c'est des luttes foncières. Alors, il y en a beaucoup en Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'on est dans une région de fermage où souvent les propriétaires sont des nobles, mais ce n'est pas tellement contre ces propriétaires nobles qu'il va y avoir des luttes, c'est en cas de changement de propriétaire. Quelqu'un achète des terres et va dire « je veux les cultiver moi-même ». Mais en réalité, il ne les cultive pas lui-même. C'est un peu plus compliqué que ça. Et souvent, ce sont des gens qui sont extérieurs à l'agriculture. Donc, le courant paysan-travailleur va dire que ce sont des cumulards. Hein. Bon, c'est vrai en Loire-Atlantique, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et souvent, ce sont des gens qui peuvent être bouchers, marchands de bestiaux ou d'autres métiers. Et quelquefois, des agriculteurs. Et là, il va y avoir des tensions. Alors, comment ça se passe ? L'idée... Oui, pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'idée... qui est une idée qui vient du CNJA, peut-être les plus anciens me critiqueront, je ne sais pas, c'est que le droit au travail, hein, le droit du travail doit être supérieur parfois au droit de propriété. Hein, donc, qui était présent parfois dans le CNJA, je rappelle qu'à un moment donné, le CNJA a occupé, sont allés chez Jean Gabin, c'est au début des années 60, qui possédait de grands territoires. Bien. Alors, ces luttes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer d'impliquer des gens du village, bien sûr, hein, ou autour, mais des agriculteurs, des paysans, mais aussi des gens des villes. Alors, je suis tombé une année sur un rapport des RG, il y avait eu une lutte, etc. Ils avaient raflé quelques personnes à Nantes après une lutte comme ça, et on voyait qu'il y avait des professions différentes, quoi. Et donc, comment les impliquer ? C'est en faisant des tas de petites actions. Alors, il peut y avoir des actions illégales, la nuit, une barrière tombe, quelque chose est fauché. Bon, ça, c'est du côté de Redon. Je ne sais plus précisément si c'est 69-70. Une autre fois, c'est dans le Maine-et-Loire. Il y a des barrières détériorées, des choses. D'autres fois, ça va être au contraire ensemencer un champ dans le Finistère, fauché. Bon, il va y avoir des tas d'actions illégales en essayant qu'elles soient menées par le plus grand nombre, hein, de personnes. Et en essayant de s'ouvrir à d'autres catégories sociales, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui soutiennent à ce moment-là ce mouvement, avec aussi, comme point d'appui, quelque chose... C'était une autre époque. C'est la section nationale des fermiers métayers de la FNSEA qui était tenue par un communiste à l'époque. Hein, c'était possible. Voilà. Donc des luttes qui, évidemment, sont populaires dans le milieu agricole, dans le village, qui donnent lieu à des victoires. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un gars de Loire-Atlantique qui dit « Cependant, les victoires ont souvent été obtenues quand le nouveau propriétaire n'était pas du coin, en gros, pour le dire. Hein. Ce n'était pas un paysan et il n'était pas du coin. » Voilà. Et ça facilitait, si vous voulez, la solidarité locale contre l'ennemi extérieur, si j'ose dire. Hein. C'est peut-être un peu froid de le dire comme ça, mais bon, voilà. Hein, comme, bon, je ne parlerai pas du midi aujourd'hui. Troisième type de lutte, c'est contre des firmes. Alors, j'ai pris un exemple. Alors, c'est une firme qui s'appelait Vesafik ou Esafik, je ne sais pas. Vesafik, qui était hollandaise et qui fournissait, c'est dans les années 70, qui fournissait à des éleveurs qui avaient peu de surface les produits vétérinaires, l'alimentation, etc., etc., qui faisaient du veau en batterie. Sauf qu'à un moment donné, cette firme fournit un produit de mauvaise qualité et il y a des maladies, de la mortalité du bétail, voire même des problèmes de santé pour certains éleveurs. C'est rigolo. Hein. On est en 78 et je crois que c'est par rapport à du lin d'âne. Hein. Et donc, il y a une énorme brochure, mais je ne sais pas, ils passaient leur vie à ça. Une brochure qui fait au moins 80 pages des paysans travailleurs, excellent, ou du comité de liaison, je parle sous surveillance, des éleveurs intégrés, qui est une super brochure, super intéressante, et qui développe un peu tout ça. Et donc, on a là, pour la première fois, d'une certaine manière, un truc environnemental dans une lutte paysanne. Enfin, je crois que c'est une des toutes premières. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les plans? Bon, évidemment, on dénonce l'endettement des paysans parce que la firme disait « Ah, ben, c'est de votre faute, quoi, en quelque sorte. Hein. » En s'appuyant sur la loi de 1966, sur l'intégration. Et alors, les actions, c'est se mettre aux côtés des éleveurs, essayer de créer une défense individuelle, mais aussi collective, avec la création d'un comité. D'abord, c'était par firme, parce que j'ai dit Fesafik, mais il y avait plusieurs firmes, en fait. Puis un comité de liaison des éleveurs intégrés. On m'a même dit qu'au début, il s'appelait comité de lutte des éleveurs intégrés. Bon, voilà, ça, c'est quelqu'un de Haute-Savoie qui m'avait dit ça. L'idée, c'est de défendre individuellement et collectivement ces personnes. Il y a eu l'envahissement des locaux de la firme ou de sa filiale, je ne sais pas, qui était à Nantes. La popularisation par des affiches, des tracts, de la brochure, un spectacle de marionnettes. Mais je crois que le spectacle de marionnettes, j'ai pas vérifié. Hein. Il y a des négociations, bien sûr. Je crois que les paysans travailleurs qui avaient une revue qui s'appelait Vent d'Ouest critiquent. Alors, c'est quoi l'affiche? C'est Vesafik. Escrocs, je ne sais pas quoi. Et donc, ils sont attaqués en justice par donc, le directeur de publication, c'est ça, est attaqué en justice par Vesafik, par la firme. Et donc, il y a un procès qui se tient à Laval, je crois que c'est en 1978, en février ou quelque chose comme ça, 1978. 22 février 1978. Non, mais c'est bien, je suis très content. Tout à l'heure, c'était hier soir, on en parlait. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. On en parlait hier ou ce matin. C'est l'importance des avocats. C'était avec Laurence. L'importance des avocats, parce que l'avocat qui les défend, ce n'est pas n'importe qui, c'est Henri Leclerc. Je crois qu'il est encore vivant, d'ailleurs. Ah, il est mort il y a 2 ans. Alors, pardon. Voilà. Donc, c'est Henri Leclerc. C'est-à-dire l'importance de, et vous l'avez bien vu dans la lutte contre les EGM, d'avoir des liens très forts avec des cabinets d'avocats, etc., etc. Donc, j'ai essayé de pointer hein, 3 luttes contre les firmes. Je crois que ça existe encore aujourd'hui. Pour le revenu, il me semble que c'est peut-être encore d'actualité. Et je disais, pour l'accès aux terres, ça se présente peut-être de manière différente. J'espère ne pas avoir été trop long.
Bon, eh bien, je vais essayer d'être à l'historien, d'être plus, comment dirais-je, de ceux qui ont participé à la lutte, quoi. Mais donc moi, j'avais prévu de vous parler, puisqu'on parle des luttes paysannes, et comme j'y ai participé, j'ai eu la grande chance d'y participer pendant 5 ans, je vais vous parler un peu de la lutte du Larzac, et après, je vous ferai un petit truc sur la Via Campesina, qui est notre mouvement mondial, parce que pour moi, c'est hyper important. La lutte du Larzac, au début, c'était une lutte pour le foncier, ce n'était pas une lutte antimilitariste, hein. Et puis, donc elle a duré 10 ans. Moi, je suis arrivé en 75 sur le Larzac. J'avais 21 ans. Donc, voilà, faites le calcul si vous savez l'âge que j'ai. Et donc, à ce moment-là, la lutte était bien entamée. Et les paysans du Larzac avaient compris que, on appelle ça aujourd'hui la convergence des luttes, il fallait s'ouvrir sur les autres parties de la société, que ce soit les salariés, que ce soit le monde paysan dans son ensemble et que ce soit aussi tout le monde des citadins. Et donc, assez rapidement, les paysans travailleurs aussi dont on vient de parler ont rejoint cette lutte en 73 en organisant une marche nationale des paysans travailleurs pour le Larzac. Donc il y avait des départs de marche d'un peu partout de France qui a abouti à un grand rassemblement de 70 000 personnes à peu près sur le Larzac. Et il y en a eu un autre l'année d'après. C'est là, cette époque-là, que j'ai connu cette lutte. Moi, en 74, où il y avait à peu près 100 000 personnes. Et donc ces 100 000 personnes, on ne les aurait pas trouvées si on était resté dans une lutte très corporatiste. S'ils étaient restés sur une liste juste pour le foncier de paysans, en tant que paysans, pour pouvoir être virés de leur terre, ça s'est bien, bien étendu parce qu'il y a eu à ce moment-là les non-violents, les antimilitaristes et puis aussi des mouvements sociaux et des mouvements politiques qui ont dit ça, c'est une lutte après 68 qui est vachement intéressante parce qu'il y a des gens qui se prennent en main et qui luttent contre l'État et contre sa puissance. Et il faut qu'on arrive à prouver que cette puissance, en fait, elle peut être réduite et on peut gagner contre une si forte puissance. Et donc, les paysans du Larzac ont appris à la fois à se battre de manière non violente, puisqu'ils ont assez vite compris que contre une armée, on ne peut pas se battre de manière violente. Donc, il faut détourner la chose. Et donc, ils ont accepté les principes de la non-violence. Et ils ont accepté les principes, donc, du coup, de la désobéissance civile. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il n'y a eu il y avait aucun permis de construire d'accordé sur le périmètre de 14 000 hectares de terre qu'ils voulaient exproprier. Donc, il y a eu des bergeries illégales construites, il y a eu des bâtiments, des maisons, etc. Donc, les gens continuaient à fonctionner là-haut comme en toute illégalité. Et ils ont appris la désobéissance civile comme ça. Et puis, il y a eu un tas d'actions organisées qui étaient aussi un barrage de route, qui étaient aussi les grands rassemblements, des manifestations, une grande marche jusqu'à Paris en 79, donc qui ont aussi beaucoup fait parler de cette lutte et beaucoup rassemblé de monde autour. Et donc, mon propos, c'est de dire qu'une lutte paysanne, et aujourd'hui encore plus qu'à l'époque, parce qu'il y a beaucoup moins de paysans aujourd'hui, ne peut pas être gagnée si elle n'est pas gagnée avec la société tout entière, en tout cas les gens qui se sentent proches des paysans et qui ont envie de les défendre. Et que les paysans ont intérêt à bien mûrir cette chose-là. Donc la convergence des luttes, c'est très important. Le monde ouvrier, dans son ensemble, n'a pas toujours compris ça. Dans les manifs pour les réformes des retraites, il y a des départements comme le Tarn, par exemple, où la CONF fait partie du collectif syndical. L'Aveyron, on n'a pas réussi à faire accepter. On a fait toutes les manifs avec des tracteurs et tout contre la réforme des retraites, mais on n'a pas réussi car certains syndicats bloquent en disant on est un syndicat de patrons, on ne pourra jamais intégrer un syndicat de patrons. Mais bon, on trouve que c'est vrai qu'on peut être des patrons, on n'est pas. Mais nous, on ne considère pas nos fermes comme des entreprises. Mais c'est là où ça coince un peu, quoi, avec le monde ouvrier, salariat. On ne s'estime pas être des patrons et des entrepreneurs, contrairement à d'autres syndicats, bien entendu, quoi. Et donc, le fait aussi qu'on ait cherché cette convergence des luttes pendant la lutte du Larzac, on a fini par gagner quand même, vous le savez, mais bon, je vous le redis. Et puis, s'il y a, pour en plus de détails, il y a le film Tous au Larzac, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est vraiment très, très bien fait. Donc, il dure 2 heures, il est super. Et donc, ça nous amène aussi au côté internationaliste qu'à la CONF aujourd'hui et depuis toujours, mais bon, de plus en plus, parce que sur le Larzac, on a été soutenu aussi, on avait un comité de soutien au Larzac, il y en avait dans beaucoup de villes en France, mais il y en avait un à New York aussi. On en avait dans d'autres pays aussi. Donc, ça veut dire que cette lutte, elle parlait à des gens d'autres pays. Et ça, c'est vachement important. Et donc, on a accueilli sur le Larzac aussi, même après la lutte, des gens de Kanaky, des gens de Polynésie qui se battaient pour leur indépendance. Et par exemple, sur le Larzac, on a consacré un bout de terre qu'on a donné, dont on a fait cadeau avec acte notarié au peuple kanak. Et donc, ils ont leur bout de terrain qui fait 2 ou 3 hectares avec une caselle kanak, mais en pierre, construite par les paysans du Larzac en soutien, et où ils viennent, les kanaks qui habitent en France, qui sont étudiants quoi, viennent régulièrement faire des fêtes ou des réunions. Et donc, il y en a eu encore il n'y a pas longtemps. Ah, je ne parle pas assez près. Désolé. Donc voilà, le côté internationaliste, en fait, il s'est beaucoup concrétisé. Donc après la création de la Confédération paysanne, qui a été créée en 85, avec l'alliance de 2 syndicats de gauche paysans, donc la FNSP, donc Fédération nationale des syndicats de paysans, qui était l'émanation du Parti socialiste, il faut le dire comme ça, et la CNSTP, Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, qui avait été créée donc en 81, quand le pluralisme syndical a été enfin reconnu. Sinon, avant, il n'y avait que la FNSEA. Donc, ces 2 syndicats ont créé la Confédération paysanne. Et en 93, j'essaie de faire vite parce que j'ai qu'un petit quart d'heure, puis on en parlera après. En 93, a été créée donc, la Via Campesina, qui est un mouvement de paysans mondial. Aujourd'hui, il y a 110 pays, je crois, qui sont adhérents. Je parle sous contrôle de Josie, qui a été longtemps au Bureau international. Et donc, on a autour de 220 millions d'adhérents. C'est le plus grand mouvement social mondial qui existe, quoi. D'après des sociologues, d'après des gens qui travaillent là-dessus. Il n'y a pas d'autre mouvement autant, qui regroupe autant de monde, même en dehors du monde paysan. La FNSEA, pour vous dire, ils avaient un truc un peu mondialisé aussi comme ça, mais qui a coulé parce que le directeur est parti avec la caisse un jour. Et puis, ils en ont recréé un, mais on n'en entend jamais parler. C'est un truc un peu alibi pour les conférences internationales, mais ils n'ont pas d'adhérents de base. Et surtout pas dans les pays pauvres. Nous, on a beaucoup d'adhérents en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et on a, là où on n'en a pas, c'est en Russie et en Chine, par exemple, parce que c'est des pays où il n'y a pas de syndicats paysans. Mais c'est un mouvement syndical qui fonctionne sur le principe de la parité homme-femme. D'ailleurs, dans toutes les réunions, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Et il faut aussi qu'il y ait un tiers de représentants de la jeunesse, des moins de 35 ans. Et ça, c'est vachement important, ces 2 choses-là, parce que ça donne aux assemblées où il y a quelquefois, tous les 6 ans, une grande assemblée où il y a 400 ou 500 personnes, ça donne une autre couleur que les assemblées où on voit que des hommes cravatés avec des cheveux blancs, quoi. C'est vraiment très, 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 très différent. Et moi, j'ai beaucoup, comme disent les jeunes, kiffé ça, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment des moments d'ambiance extraordinaires, quoi. Et donc, la Via Campesina, elle se bat beaucoup. Dès le début, elle s'est battue pour la liberté des semences et contre les OGM, et surtout contre les accords de libre-échange et de l'Organisation mondiale du commerce. Ça a été les principales batailles, évidemment, aussi pour la place des paysannes dans les pays pauvres aussi, par rapport à la terre, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à ce niveau-là. Et donc, en France, en Europe, on a créé Européenne Via Campesina. Donc, au début, ça s'appelait ECVC, pour aussi avoir, dans chaque région, donc des régions géographiques, il y a des regroupements locaux, quoi. Donc, nous, on a ça en Europe. Alors, c'est pas l'Europe à 27, c'est l'Europe, il y a la Turquie, par exemple, dedans. C'est l'Europe géographique, hein, qui est représentée. Donc voilà, c'est un mouvement mondial qui fonctionne de la manière dont je vous dis, avec vraiment un mode de fonctionnement avec très, très peu de moyens. La Via Campesina mondiale a moins de moyens que la Confédération paysanne, par exemple, pour vivre, parce qu'il n'y a pas de l'argent public pour un mouvement comme ça. Et il y a très peu de cotisations parce que les paysans du monde ne peuvent pas cotiser tous comme on pourrait nous cotiser ou comme on cotise chez nous. Mais ça fonctionne. En ce moment, le siège mondial, il tourne tous les 6 ans suivant les régions du monde. Et en ce moment, il est en Europe et à Bagnolet, à la Confédération paysanne à Paris. Donc, on est super fiers de ça et ça va rechanger dans peu de temps. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près mon quart d'heure. Et puis... On ira avec les questions. Donc voilà, pour les luttes paysannes, je m'en suis tenu à ça parce que je sais qu'après, il y en a, on vous raconter le reste. Laurence. Par exemple.
Bonjour. Donc, moi, je suis à la Conf. Je ne suis pas dans ce syndicat agricole par hasard. Et c'est bien sûr, avant tout, un syndicat agricole. Donc, je tiens à le rappeler. Parce que, et je vais illustrer un peu ça par mon propos, on était présents sur la DNC autant que la CR, puisqu'on était à l'Homme, on était en Ariège, voilà. On est sur les prix rémunérateurs, je sors du CN en plus il y a 2 jours, donc je peux vous dire que les questions agricoles, c'est quand même notre cœur de ce pourquoi on est là. Mais on ne fait pas que ça, ce que je vais vous expliquer en fait. Donc on est pour une agriculture paysanne, c'est-à-dire saine et de qualité, un petit peu par opposition à l'agriculture agro-industrielle qui est ni saine ni de qualité. Moi, je suis petit paysan sur l'Aubrac, donc j'ai 23 vaches. Je donne que de l'herbe et du foin, voilà, pas de soja, pas de céréales. Je suis intéressé beaucoup aux questions agricoles au niveau des réglementations sanitaires qui sont toujours très compliquées. Donc il y a eu l'ADNC, mais il n'y a pas que l'ADNC. L'ADNC, ça a été spectaculaire parce que il y a la politique de l'abattage total que enfin, vous avez tous suivi, j'imagine. Ça a quand même été au cœur de l'actualité pendant très longtemps. Mais on a des complications au-delà de ça, pour des maladies dont on ne parle pas tant, mais qui servent un petit peu à éliminer des paysans. Moi, à l'époque, j'avais eu l'IBR, par exemple, qui est une maladie, comme ils disent, les groupements de défense sanitaire commerciale, pour laver plus blanc que blanc. Donc, en fait, c'est la définition, c'est la rhinotrachéite infectieuse bovine. Et la définition du dictionnaire des vétos dit qu'elle apparaît généralement l'automne et disparaît spontanément en quelques jours. Pour vous dire si c'est grave, quoi, c'est un rhume, en gros. Mais pour autant, on a fait éliminer les vaches qui réagissent positivement aux anticorps à cette maladie-là. Et ça permet d'éliminer des cheptels, d'éliminer des paysans. Voilà. Et c'est évidemment des paysans qui demandent ça. Je ne vous cache pas d'où ils sont. En général, les GDS sont tenus par la FNSEA au hasard. Voilà. Alors pourquoi à la conf, je tenais à parler vraiment de ça, mais pourquoi à la conf, on ne se contente pas de la vision agricole et qu'on essaye d'avoir une vision globale, qu'on porte une vision globale et qu'on porte un projet de société. Parce que justement, on pense qu'on ne peut pas défendre les seuls intérêts corporatistes des paysans, que ça ne va pas tout seul, en fait. Alors, j'ai pris quelques exemples de lutte aussi, lorsque j'étais porte-parole de l'Aveyron. La première, elle répond un petit peu à ce qui se disait sur le Larzac, le mariage entre les ouvriers et les paysans, puisque la conf, on a beaucoup soutenu la SAM. Alors, la SAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Société Aveyronnaise de Métallurgie. Et ça se situe à deux cases de ville, pas très loin d'ici, à l'ancien bassin Houillé, qui est une zone sinistrée, évidemment. Et c'est une fonderie d'aluminium, où il y avait 300 ouvriers. Et un des derniers bureaux d'études dans les fonderies. Voilà. Et donc, ils faisaient des voitures électriques. Alors, évidemment, ça nous a été un petit peu reproché, du moins entendu. Mais qu'est-ce que vous allez soutenir des mecs qui fabriquent des bagnoles électriques, qui plus est? Alors, évidemment... Par solidarité sur le fait qu'il y ait 300 personnes déjà qui soient menacées de perdre leur emploi, il faut savoir qu'elles fabriquaient donc des pièces pour des voitures électriques, pour Renault. Au départ, elles ne fabriquaient pas que ça. Au départ, ils étaient à 20% Renault à peu près, puis ils fabriquaient des guidons de vélo, ils fabriquaient plein de trucs. Et puis, Renault est passé à 80%, et puis après, quand il a eu 80%, ben, il les a fusillés et l'a délocalisé en Turquie et en Espagne. Donc, ce n'est pas pour arrêter de faire des voitures électriques, c'est simplement pour les faire ailleurs, où le coût est moins cher. Donc rien que pour ça, ça serait une bonne raison d'être solidaire avec eux. Mais surtout, plutôt, parce que évidemment l'usine a fermé, les trois quarts des salariés, où c'est qu'ils sont partis, ben, à l'usine d'armement, chez Ratier, à Figeac, donc c'est pas très loin d'ici, je pense. Parce que ça, c'est en fait, c'est un choix de société, de ce qu'on décide de faire aux ouvriers. Les ouvriers, c'est des fondeurs. Ils savent fondre l'aluminium. Ils avaient un bureau d'études qui était capable de créer plein de pièces. Notamment, ils avaient créé une pièce pour la fameuse Zoé électrique. Je ne défends pas la voiture électrique, hein, mais qui était 500 grammes moins lourde que ce qu'on leur avait demandé. Donc voilà, c'est toujours ça de prix en termes de consommation, mais voilà. Ils peuvent aussi faire donc des armes, puisque maintenant, voilà, vous connaissez la mode actuelle, hein, faut réarmer tout ça, faites des gosses pour les faire tuer à la guerre. Ou du matériel médical, ou des guidons de vélo. Donc voilà, avoir un savoir-faire ici, c'est éviter de faire venir des fois des trucs de l'autre bout du monde. Voilà pourquoi on a défendu tout ça. Mais on nous dit, on peut entendre des fois, c'est pas très agricole ce que vous faites. Je dirais que, alors on a fait une journée avec eux d'occupation de la SAM, quand ils occupaient avec les fours allumés, etc. C'était très sympa, un grand banquet. Alors on a apporté la bouffe gratos. Il y avait le pont suspendu où il y avait le gars qui se balançait là au-dessus de la table. C'était assez extraordinaire. Et en revanche, ils nous ont invités à faire la bouffe pour une société, pour une soirée de commémoration un petit peu des anciens de la SAM. Et ce en quoi on a quand même gagné et ce en quoi ça reste agricole malgré tout, c'est que du coup, la CGT a décidé d'indiquer à tous ses adhérents où se trouvaient les magasins paysans en Aveyron. Donc vous voyez, ce n'est pas agricole, mais quand même, pour les paysans, c'est pas mal. Et qui plus est, quand il y a eu un barrage à Baraqueville pour la DNC, qui est un problème purement paysan, là, pour le coup, les camarades de la CGT, de Decazeville, de la SAM, sont venus sur le barrage. Donc voilà, deux choses pour lesquelles ça valait le coup de mener cette lutte. On était aussi à la Massade, dans le sud d'Aveyron. Alors, il y a un film qui est cet après-midi, c'est un transformateur, en fait, pour récolter l'électricité des éoliennes qui sont... Quand vous venez du Tarn, il y a un grand panneau Aveyron, terre énergie renouvelable, donc de l'éolienne partout, évidemment du futur parc nucléaire, photovoltaïque. Ça permet de regrouper toute cette électricité, éventuellement de l'envoyer à Barcelone, par exemple, puisqu'on sait faire aussi d'exporter l'électricité. Donc voilà. Et donc, on était sur la ZAD qui s'était créée, sur plateau Saint-Victor-et-Melvieux, où il y a déjà beaucoup de lignes de haute tension qui passent, parce qu'il y a aussi les barrages du Tarn juste à côté. Christian était à l'évacuation de la ZAD. Ça s'est passé avec les CRS, comme d'habitude, avec le lacrymo et tout ça. Et puis moi, on s'est partagé le travail. J'étais pour la reprise de la ZAD lorsqu'elle avait été prise. Quand ils avaient mis des barbelés partout autour, on s'est dit, il y a un truc où il y a des barbelés autour, partout, comme ça, il faut y aller, quoi. C'est qu'ils ont un truc à cacher, c'est qu'il y a un truc de pourri là derrière. Et j'ai fini en garde à vue. Mais bon, je sais pourquoi j'ai voulu rajouter un petit peu par rapport au photovoltaïque, c'est que quand vous défendez le fait qu'il n'y ait pas de photovoltaïque au sol sur des terres agricoles, ben c'est les paysans que vous défendez, c'est l'avenir des paysans, et c'est le foncier agricole qui est défendu, bien évidemment. Un autre exemple, sur les retraites, on a été aussi très présents. Alors après un mois, Christian a parlé un petit peu parlé tout à l'heure, mais après un mois de tour de ville de Rodez, on a été plus, je crois, huit manifestations, où on a été très sage, très en cortège et tout ça. On a décidé de mener une action au viaduc de Millau, où on a récolté 3 gardes à vue, et Christian a récolté aussi une interruption de temps de travail, je ne sais plus comment on dit, TT, suite à une charge violente d'un policier. Plaquage haut, ça s'appelle au rugby. Il a fracassé au sol, quoi. Donc on a eu très peur pour lui. Et voilà. Et pour dire, bon, les retraites, c'est pareil. On nous a dit, mais les retraites, c'est les salariés qui... les retraites agricoles, elles sont aussi pitoyables. Pitoyables. Il y a pas de problème à ce qu'elles soient largement rattrapées parce que on n'y est pas. Et donc, suite à ça, on avait bloqué la place du Mandarou à Millau et on menaçait de bloquer la 75. On était très, très en colère d'avoir nos camarades en garde à vue comme ça. Et c'est Laurence qui avait appelé les renseignements généraux en leur expliquant qu'on était capable de faire tout ce qu'on avait promis de faire comme menace. On commençait à déplacer les poubelles au milieu de la rue dans Millau, etc. Donc, c'est un procès, hein, c'est pas fini. Et il y a eu une action suite à ça aussi. On a été à la préfecture de Rodez dire qu'ils avaient fait n'importe quoi sur le viaduc de Millau. Avec les tracteurs, on a été contre les portes de la préfecture, on a balancé du blanc d'Espagne sur les CRS, il y avait des jeunes qui nous avaient suivis, qui avaient envoyé des feux d'artifice, c'était très sympathique. Et il y avait Christian qui était juché sur une remorque, qui commentait tout ça avec sa minière, je me rappelle, c'était très vivant. Là-dessus, les RG sont venus pour dire « Vous avez fait n'importe quoi devant la préfecture, dit, ah, comme vous l'autre jour, viaduc de Millau, un partout. » Voilà. Alors, pour dire aussi que ce n'est pas la FNSEA ou la CR qui ont manifesté pendant les retraites. Parce que eux, la solidarité avec le reste de la société civile, ils n'en ont rien à branler. Je parle comme ils parlent. Hein. Voilà, ils n'en ont rien à branler. Eux, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts corporatistes. Toujours plus de pesticides. Zéro contrainte. On doit pouvoir balancer du lisier dans le ruisseau si on veut. Le paysan doit être sacré dans le sens qu'il fait n'importe quoi, tout va bien. Il a le droit de pourrir des autoroutes, de tout faire. On ne doit rien leur dire. Ça, c'est la vision CR. Et la FNSEA, en gros, ça à peu près la même vision, la CR, c'est à peu près la même que la FNSEA, en aussi crado, voire plus crado. Peut-être je vais faire un peu long, du coup. C'est bon. 3 minutes, ça va être juste. On a voulu faire les résistantes aussi en 2023, parce que justement, il y a eu l'ARZAC en 73, il y a eu l'ARZAC en 2003, j'étais un jeune porte-parole de 29 ans, bien bien dépassé à l'époque, et donc en 2023, j'étais un peu moins jeune et un peu moins dépassé. Alors, c'était après le Covid, en fait, le besoin de se restructurer et de réorganiser les résistances. Donc, il y avait au départ la CONF, les faucheurs volontaires et Terre de lutte. Terre de lutte qui souhaitait organiser un festival de lutte locale Et la conf, bon, on avait cette idée de l'Arzac 2023 un petit peu, et de là est née les résistantes. Et le but, c'était pas de faire émerger un leader, parce qu'on a déjà connu ça par le passé, ou une leaduse d'ailleurs, peu importe, mais à partir des luttes passées, ouvrir sur les résistances présentes et à venir, dans un esprit de collégialité, voilà, et d'organiser les résistantes. Et ça, c'est bien marché, puisque sur ces trois organisations de départ sont venues se greffer des luttes féministes, des luttes sur les violences sexuelles. Les Kanaks sont venus, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose sur le Larzac. Et voilà, on a essayé de l'étendre au-delà de simples luttes locales. Et il y a des gens qui ont réussi à s'organiser, il paraît, un peu par là-bas. Photo révoltée, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, des routes, tout ça, c'était un temps important pour se retrouver. Voilà, donc c'est un peu pour... Presque fini dans les temps. Pour toutes ces raisons que la CONF, bien qu'un syndicat agricole, porte un projet de société. Agir local, penser global, on ne peut pas être heureux tout seul. Bien que préoccupés par les difficultés du monde paysan, nous savons, et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs créé les Amis de la CONF, je vous invite, on sait qu'en fait, si les paysans tout seuls, on n'aurait jamais obtenu l'interdiction des OGM sous Sarkozy, par exemple. C'est parce que 80% de la population à l'époque était opposée aux OGM que Sarkozy a fait le moratoire. Donc à la CONF, on sait que contrairement à la FNSEA, nos propositions ont un certain écho dans la société. Les malades du cancer disent « Ah oui, moins de pesticides, c'est intéressant ». Comprenez que la SER et la FNSEA, eux, ils ne sont pas du tout sexy à ce niveau-là, puisque vous avez vu le mouvement actuel qui est d'en rajouter et d'en faire revenir même des anciens qui avaient été interdits, tout ça, quoi. Et donc, on a créé les Amis de la CONF. Et on sait que c'est par le relais de la société civile tout entière. Donc, les photos révoltées, comme j'ai dit tout à l'heure, protègent les terres agricoles et les forêts, bien sûr, et tout ça. Et la nature et le vivant, quoi. Et les autres le disent. Il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. Et voilà. Et que c'est de nous tous, que la société, de toute la société, que viendra le changement.
Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis paysanne en Ariège. Je vais évidemment vous parler au nom de la Confédération paysanne. Beaucoup de choses ont été dites. C'est un peu virevoltant, mais c'est chouette aussi. J'espère que pour vous, ça va. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Confédération paysanne, son projet qui est global et de société, c'est ce qu'on appelle, nous, l'agriculture paysanne. Avec, souvent, on le symbolise avec une fleur et plein de pétales. Je ne les ai pas tous en tête, mais je voudrais citer... 3-4 de ces points d'ancrage ou de ces pétales importants, c'est dans le désordre, mais peu importe, il y en a un central pour nous qui est l'autonomie des paysans, de décisions financières, d'autonomie technique, technologique, un peu tout ça. Un autre axe, c'est le travail avec le vivant. Voilà, on est tellement aux prises avec le vivant, on sait combien c'est important de prendre soin de nos sols, de l'eau, de tout ça. Pour de la biodiversité, c'est essentiel à la Confédération paysanne. Il y a aussi le lien, moi je le dirais comme ça, avec le territoire qui nous entoure, les vivants qui nous entourent, nos voisins, les entreprises d'à côté, la société en fait autour de nous. Voilà, on n'est pas dans un îlot quand on est dans notre ferme, dans notre étable et qu'on veut vivre ce lien social, il est absolument essentiel. Et quelque chose que je dirais comme ça, c'est la question de vivre de notre travail dignement, de rémunérer notre travail. Et pour le faire très simple, en un slogan, c'est rémunérer notre travail plutôt que le capital, aussi sur nos fermes. C'est pas qu'un outil de production, c'est pas qu'un patrimoine. On veut surtout rémunérer le travail et que justement cet outil de production puisse facilement être transmissible et pas hyper capitalisé comme du patrimoine. C'est chouette pour moi et pour tout le monde, je pense, d'entendre ces luttes depuis avant la création de la CONF. Moi, je vais vous parler de luttes d'aujourd'hui et un peu du futur et ce que ça signifie. La première chose que je veux dire, c'est que les luttes paysannes, elles ont toujours existé. Elles ont toujours été largement invisibilisées. Sciemment, hein, depuis l'Ancien Régime, la Révolution, enfin, je ne veux pas refaire l'histoire, en plus, ce n'est pas moi qui suis historienne ici, mais elles ont sciemment été invisibilisées parce que c'était par le passé, quand les paysans étaient hyper nombreux, enfin, c'était la majorité de la population sur les territoires, en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est devenu archi-minoritaire, même dans les campagnes, en termes d'emploi. C'est aujourd'hui, on est entre 350 et 360 000 agriculteurs en France. C'est rien du tout. On était 1,5 million dans les années 80. Enfin, vous voyez la crise sociale. Enfin, la saigne, je ne trouve pas les mots. Mais voilà, donc aujourd'hui, d'autant plus invisibilisé qu'en plus, on est très, très, très peu nombreux sur les territoires. Se dire que la plupart des luttes, elles sont longues. On le reverra, je vais forcément parler de bassines tout à l'heure, mais c'est des choses qui durent depuis longtemps. Je vais aussi parler lait. Et voilà, il y a des luttes qui, des fois, sont ponctuelles, mais la plupart des luttes fondamentales, essentielles, c'est des luttes qui s'inscrivent dans le temps. Donc voilà, les générations peuvent passer. Il y a des plus anciens que nous dans la salle. Il y a des jeunes aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire aussi. Elles sont forcément collectives, parce que et des fois, on n'est pas assez nombreux. Et des fois, ça a été très bien dit précédemment, on a besoin de s'allier avec d'autres pour des raisons de stratégie, mais aussi sur le fond, parce qu'ensemble, on aspire à des choses différentes, en fait. Du coup, il y a cette dimension collective hyper importante. Je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été cité ici. C'est qu'il y a aussi... alors, je ne sais pas si lutte paysanne, c'est le mieux, mais pour que la Confédération paysanne continue à exister aujourd'hui, être ce qu'elle est, on représente quand même... Tiens, ça aussi, je veux dire, un agriculteur sur cinq aux élections professionnelles, avec la position qui est la nôtre, qui a bien été décrite avec des valeurs très fortes et qui sont un peu à contre-temps de l'idéologie ambiante, politique, économique, un peu tout ça. C'est pas rien. Et en interne, je ne sais pas si on peut appeler ça des luttes, mais en tout cas, c'est un travail de tous les instants qui prend beaucoup d'énergie pour faire vivre la Confédération paysanne. Parce qu'évidemment, on est présent sur tous les territoires, les Outre-mer, enfin, c'est un truc de dingue. On a des fermes très différentes. Donc voilà, il y a des choses en interne qui ne sont pas toujours simples. On fait un gros travail sur essayer. Je tiens à dire comme ça que... la façon dont on est organisé, dont on travaille, dont on milite, soit à l'image de la société qu'on veut, avec de la démocratie, de l'horizontalité, des décisions collectives, avec de la parité. Nous, on essaye, toi tu parlais de 50% à la Via Campesina, à la Confédération paysanne, au national et un peu partout, on essaye d'arriver à une parité à 30%. On est 30%, un peu moins, on est 27% de femmes chefs d'exploitation dans le... voilà, on essaye de vivre ça et c'est pas toujours simple. On mène un travail contre les violences sexistes et sexuelles partout dans le monde, mais aussi chez nous en interne. Voilà, vous montrer qu'il y a aussi ces dimensions-là dans les luttes qu'on porte à l'extérieur, qu'on porte quand on défend les paysans et une société, celle qu'on veut, mais que ça suppose aussi du travail en interne. Je voulais le dire rapidement. Dire aussi qu'une caractéristique des luttes de la Confédération paysanne, à la différence d'autres luttes, d'autres mouvements sociaux ou même des syndicats de salariés, c'est qu'on doit lutter contre un truc depuis le début qu'on a voulu nous faire croire dans le récit qui est l'unité paysanne. C'est-à-dire qu'il y a une corporation qui s'appelle les paysans en France, en Europe ou dans le monde, qu'on est tous pareils, qu'on a des intérêts communs et qu'il faut qu'on bosse ensemble. Et en fait, c'est archi faux. Ça a toujours été faux quand on parle des questions de fermage ou n'importe. C'est au moins aussi faux qu'avant aujourd'hui. Il y a clairement plusieurs modèles agricoles. Il y a clairement un modèle agro-industriel qui est clairement prédateur de l'agriculture paysanne telle que j'ai tenté de l'écrire. Donc, en plus, on a ce défi-là au sein même du monde agricole. Il y a une espèce de lutte interne. D'ailleurs, Bernard Lambert a écrit un texte fondateur qui s'appelait « Les paysans dans la lutte des classes » pour montrer à la fois ce lien dans la lutte des classes globales, mais ce lien aussi en interne de l'agriculture. Du coup, voilà, c'est quand même une masse de défis auxquels on fait face et de luttes qu'on doit mener sur différents fronts. Je vais vous parler de deux luttes, j'en ai choisi deux, mais j'aurais pu en être pleine de ces deux, trois dernières années. Et puis après, je vous parlerai un peu du futur et du contexte dans lequel on est. On m'a un peu demandé de parler bassines. Parce que forcément, je pense que pour tous les militants que nous sommes dans cette salle, il y aura un peu un avant et un après Sainte-Soline. Mais je ne veux pas parler que de Sainte-Soline, évidemment, j'y étais, beaucoup d'entre nous ici. Déjà vous dire que la question des bassines, si la conf s'en est saisie, il y a plus de 20 ans, quand les premières bassines ont surgi, les premiers écrits de la conf à ce sujet, ils sont là. Et puis le sujet bassine est monté en puissance, ils n'ont pas arrêté d'avoir des projets et d'en construire. Et il est pour moi, cette lutte, elle est le symbole le fil rouge de l'histoire de la Conf, de lutter contre l'industrialisation de l'agriculture. Quand on luttait contre l'intégration à un moment, quand on lutte contre les dérives de l'élevage, la ferme des 1000 vaches, enfin le McDo et tout. Aujourd'hui, un des symboles forts, il y en a plusieurs, mais cet accaparement de l'eau pour un modèle hyper agro-industriel qui consomme des intrants, qui est globalement pour arroser du maïs destiné à l'export, c'est aujourd'hui une des choses les plus visibles, les plus scandaleuses de ce qu'est l'agro-industrie. Il y en a beaucoup. Mais du coup, je pense que c'est ça que ça traduit. Ça traduit les dérives d'un modèle qu'on ne veut pas, qui est mortifère, qui détruit le vivant, qui détruit les paysans, qui ne produit pas vraiment d'alimentation, en tout cas pas d'alimentation de qualité. Donc voilà, depuis 20 ans, la Conf, elle était sur le sujet. Des collectifs locaux, en particulier qui s'appelle Bassine Non Merci, très locaux au début, se sont saisis, comment on peut s'en saisir face à un projet dans notre commune pareil de panneaux, enfin. Et puis on a réussi à se rencontrer et là ça a été un mouvement énorme, une convergence énorme et qui est essentielle, et on a voulu prendre toute notre part dans cette lutte là pour aussi contrer un autre récit qui a été très bien habilement mené par certains qui pensent beaucoup voilà, et qui défendent leurs intérêts, qui était de dire ça c'est une lutte entre des écolos qui sont contre des paysans. Et nous, on était dans cette lutte depuis le début, se dire non, 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 c'est pas une lutte d'écolo contre paysans. C'est une lutte contre un modèle agricole et des paysans, de la Confédération paysanne et d'autres. On est partie prenante, on dit non aux bassines parce que ça détruit des paysans, c'est pas le modèle qu'on veut. Je pense que ça, c'est un élément hyper important. Ça, nous, on espérait beaucoup obtenir un moratoire, tellement ça n'a aucun sens, ni sur le cycle de l'eau, ni économique, ni à aucun point de vue. On ne l'a pas obtenu dans les faits. L'État n'a pas renoncé à des projets de bassines, ni le territoire, ni encore moins certains agriculteurs et syndicats, en particulier la coordination rurale et la FNSEA, la COP de l'eau des Deux-Sèvres. Là, il y a un lobby très fort. Mais de fait, entre l'ensemble de ce qu'on a pu faire, du rapport de force qui s'est instauré, de ces manifestations, des propositions que nous, on a pu faire, j'y reviendrai, sur une autre gestion de l'eau, sur le partage de l'eau entre agriculteurs, le partage de l'eau entre usagers, la gabegie de pognon public. De fait, il y a une espèce de moratoire de fait. Il y a beaucoup moins de bassines qui se construisent que ce qui était prévu. Il y a des bassines qui sont sans cesse débâchées. Et du coup, ça, voilà, il y a une bataille du récit, mais on n'a pas un moratoire, mais ça a un peu calmé les choses. Et cette lutte des bassines, elle s'est construite sur un récit. Je disais que certains ont essayé d'instrumentaliser, c'est des écolos qui ne comprennent rien contre des paysans. J'entends encore beaucoup. Hein. C'est le discours de la coordination rurale, de l'État et un peu tout. Il y a un autre récit qui s'est greffé dessus, extrêmement dangereux. C'est que c'est à l'occasion de Sainte-Soline, là, du 25 mars, ce qu'on appelle Sainte-Soline 2, que le soir même, mais ce n'est pas venu par hasard, on le sait tous, qu'a déboulé le récit des éco-terroristes qui était dans les tiroirs depuis longtemps. Ils cherchaient une bonne occasion de l'envoyer. Et ça fait son petit effet d'utiliser, voilà, quand on nomme les choses, de jeter en pâture l'ensemble de cette lutte en la dévoyant, enfin bref, en la décrivant comme ils ont voulu la décrire. Quand je dis « ils », c'est les médias, c'est les politiques, c'est la justice, on y viendra après, de créer des boucs émissaires personnalisés. Ça, je tiens à le dire, parce que du coup, nous, Confédération Paysanne, le porte-parole national de l'époque et départemental, et les autres responsables des autres orgas, voilà, on subit des procès sans cesse. La Confédération Paysanne a été reconnue coupable d'organisation de manifs interdites. Enfin, c'est des choses extrêmement grave. Bon, le plus grave, c'est clairement la répression. Je ne vais pas m'étendre dessus, les blessés. C'était vraiment une scène de guerre. Là. Enfin, on était nombreux à y être. Et voilà, ça a été un alibi pour une répression qui avait démarré avant, mais absolument féroce. C'est ça le contexte dans lequel on est, médiatique, politique, juridique, et qu'on connaît un peu tous. Je voudrais parler d'une autre lutte, parce que je savais, et je vais aussi parler revenu et lait. Parce que du coup, tu parlais de la grève du lait de 72. Il y a eu une autre grève, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui étaient, une grève de la faim qui a été menée par la Confédération paysanne au CNIEL. C'est les interprofessions où se décident un peu des choses. Ben ouais, je ne sais plus l'année. bon, 2008, par là, je dirais. 2009, ouais, je suis pas loin, ouais, par là. Et du coup, ça a été une grève de la faim qu'ont mené des éleveurs, des responsables de la Confédération paysanne à Paris, au siège du CNIEL, un truc un peu luxueux. C'est l'interprofession. Pour se dire, voilà, c'est à l'idée, c'est pour vous dire qu'il y a eu un syndicat unique jusqu'en 80, comme vous a dit Christian, la FNSEA, qui est un peu née sous Vichy quand même, je vais le dire là, parce qu'après je vais parler de trucs d'extrême droite aussi. Les interprofessions, enfin de toute façon c'est une pieuvre, on la connaît, le système FNSEA, il y a plein d'enquêtes, vous le savez tous, la cogestion aussi, mais du coup les interprofessions, on est obligé de cotiser en tant qu'éleveur à ces interprofessions, ça s'appelle une contribution volontaire obligatoire. Et il n'y a que la FNSEA qui avait des sièges là. Ça existe toujours, hein, OK ? CVO, contribution volontaire obligatoire. Et du coup, on n'avait pas de siège. Il y a plein de droits où on n'a pas de siège, la Confédération paysanne, mais quand, même quand on fait 20% aux élections, on a même fait 27% à une époque. Du coup, là, il y a des éleveurs laitiers un peu remontés qui ont occupé le CNIEL, là, qui est l'interprofession du lait, qui ont fait une grève de la faim pour qu'on arrive à grappiller un siège. Donc la question du lait, c'est un peu un fil rouge. Et ce n'est pas nouveau, mais en 2024, du coup, j'arrive là plus récemment, on a décidé de réintervenir sur... On n'a jamais cessé, en fait, de défendre les éleveurs laitiers. C'est le propre d'un syndicat, hein, de la défense collective. Et alors, des cibles, on a un peu l'embarras du choix, mais il y a quand même une... Je dis cible de façon délibérée. Hein. De choix, puisqu'en France, on a le fleuron mondial de l'industrie laitière, c'est Lactalis. Et on le connaît bien en Aveyron aussi. Du coup, c'est quand même le numéro un mondial du lait, hein, Lactalis, propriété d'une famille de la Mayenne. Ça y est, je cherchais où c'est. Le siège social mondial est dans la Mayenne. Beignet, oui, pardon, la famille Beignet. Ouais, pas d'actionnaire, pas en bourse. L'opacité poussée à son extrême et qui a une longue histoire assez dramatique. Les laits contaminés à plusieurs reprises pour les bébés et tout, c'est eux. Les pollutions des eaux, c'est eux. De la fraude fiscale massive, ils ont été reconnus coupables et ils ont négocié des trucs il y a 2 ans, c'est eux. Suite à un travail d'enquête que là maintenant on peut le dire, que c'est la Confédération paysanne qui a donné des billes au parquet financier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des arrêts de collecte en rompant les contrats avec les éleveurs qui livraient chez eux, c'est encore eux. Il y en a encore eu il y a un mois en Basse-Normandie, je crois. D'un coup d'un seul, ils ont décrété qu'ils n'allaient plus collecter une vingtaine d'éleveurs par là, des bio dans l'est de la France, comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est de rompre un contrat. On est obligé de contractualiser quand on est éleveur de lait, et eux peuvent rompre les contrats. Et on se retrouve avec du lait dans le tank et qu'on ne sait pas quoi faire. C'est quand même... Et oui, il faut les traire. Et voilà. Du coup, les arrêts de collecte, il n'y a pas qu'eux, mais c'est beaucoup eux. Et puis, le prix du lait, c'est quand même incessant. C'est quand même eux, en général, qui ont le prix du lait. C'est le leader mondial. Ils se sont distribués, je n'ai même pas le chiffre en tête, je ne sais pas combien de millions de bénéfices l'année dernière, dans la famille. Hein, ils sont, ouais. Et cette année, ils continuent, ils sont partis. Du coup, en 2024, on était en plein milieu de ces énormes colères agricoles, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les négociations sur le prix du lait, ça se termine le 31 janvier et on avait fini les négos et c'est eux qui offraient le prix plus bas, je me souviens très très bien. Ils étaient à 424, les 1000 litres, et c'était le prix le plus bas et on était très en deçà des coûts de production. Voilà, c'est notre revendication. Du coup, là, on a décidé que c'était le moment ou jamais, personne ne l'avait jamais fait, de rentrer dans le siège social. Du coup, on l'a fait, quelques tracteurs. On y a passé la journée, on s'est fait sortir le soir par les flics. Emmanuel Beignet en personne était dans les locaux, il s'est bien planqué, on allait le chercher partout. Je pense qu'il a passé quelques heures aux chiottes, mais on n'a pas réussi à le coincer. Mais des gens l'ont vu, des journalistes sont allés le coincer, il était dans le train en revenant de... Nous, moi j'étais, je pense, à ce moment la moitié avec les flics, mais ils l'ont trouvé en première dans le train et il y a une séquence où un journaliste le poursuit. Mais vous étiez bien dans votre usine, qu'est-ce que vous avez à dire du prix du lait? Bon, bref, il s'est planqué. Et moi, je dois dire que dans cette lutte, les sous-directeurs du coin, puisqu'on n'a pas vu Beignet, ils n'ont pas arrêté de... Moi, j'étais porte-parole à l'époque, un peu de me crier, ouais, mais vous n'êtes même pas éleveuse laitière, mais il n'y a pas d'éleveur ici. Et en même temps, je pense que c'est une des fois où je me suis le plus sentie à ma place comme syndicaliste. à savoir de représenter des éleveurs, de pouvoir porter leurs revendications, et eux ne pouvaient pas être là. Parce que quand on livre chez Lactalis, il y a une petite clause en bas, je ne sais pas où, dans le contrat, enfin si je les ai vus, qui dit que vous ne pouvez pas vous exprimer sur Lactalis. Et que c'est encore aujourd'hui hein, ce dont je parle, et que ceux qui l'ont un peu fait, ils ont été vite virés et de ne pas pouvoir livrer. Et c'est là, c'est cette dimension de défense collective que je voulais pointer au-delà de la récurrence du sujet du lait et du prix du lait, dire que ça a tout son sens. Le syndicalisme et une lutte collective pour défendre des gens qui ne pouvaient pas être là. Sinon, ils les connaissaient, ils allaient se faire virer et perdre beaucoup. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, dans les luttes, que des fois, il faut que certains assument ce rôle-là, finalement. Et se dire que si les crises du lait et le prix du lait, c'est récurrent, j'en profite pour déborder un tout petit poil, c'est qu'on a abandonné, ça c'est une des grandes luttes, tu parlais des accords de libre-échange, et l'histoire du mois de mai, elle n'est pas anodine, on a toujours des pics de production de lait, c'est normal, au printemps, à la pousse de l'herbe. Et du coup, il y a une époque où on avait des outils de régulation des volumes pour essayer de ne pas avoir des prix complètement yo-yo quand il y a trop de lait et moins de lait. Il y a eu les quotas, bon, c'est une histoire compliquée, mais aujourd'hui, il y a zéro régulation. Donc, on est en plein dans ces problèmes de volatilité des prix et puis surtout de compétitivité. Du coup, on cherche toujours, surtout les plus riches, à nous payer le lait le moins cher possible. Bon, je pourrais parler d'autres exemples, mais j'ai choisi de parler ces deux exemples pour un peu de continuité et d'actualité. Se dire aussi que dans les années 70, il y avait des façons, des modes de lutte. Il y a 10 ans, il y en avait. Et aujourd'hui, il y en a un peu d'autres. Il y a quand même une constante à la Confédération paysanne jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne vous cache pas que ça nous pose des questions aujourd'hui de toujours mener nos actions, par exemple, à visage découvert. Ça devient extrêmement dur physiquement pour nous. Enfin, bref, nous et beaucoup d'entre vous, on a quand même pris sacrément et très nombreux des coups en pleine gueule, en vrai. Ça devient très difficile parce qu'on est tout le temps poursuivi, mis en garde à vue, poursuivi. Mais c'est le mode d'action qui nous semblait extrêmement important. Des fois, on se pose aujourd'hui des questions, de se dire que c'est toujours des luttes et des revendications collectives. Ça, c'est important. Voilà, nous, on trouve que c'est pas normal qu'un porte-parole fasse de la tôle, enfin, ou soit condamné pour tout le monde, alors qu'en fait, on assume des décisions collectives. Ça, c'est important. Et effectivement, il peut y avoir, et c'est souvent le cas, des actions de désobéissance civile, de démontage, voilà, ce genre de choses. On essaye de pas s'en prendre aux personnes. Mais ça devient extrêmement difficile. Aujourd'hui, on va pas se le cacher. Et j'entendais quelqu'un tout à l'heure dans l'HDG des luttes. On se prépare à devoir ou agir différemment, en tout cas mieux se protéger. Parce que ça reste extrêmement difficile. On y laisse beaucoup de plumes parce qu'on cherche à nous intimider de toutes les façons, en fait, avec des violences policières à notre encontre. Enfin, il y a eu pire, hein, les gilets jaunes. Bref, Sainte-Soline, ça a quand même un peu été l'apothéose. Avec de la répression financière, des amendes sans cesse, ce genre de choses. Pour nos structures, c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile. Au niveau juridique, voilà, et j'en passais des meilleurs. Du coup, ça mérite aujourd'hui qu'on réfléchisse collectivement comment essayer de se protéger, pour continuer à résister, pour continuer à lutter. Que les tensions qui sont hyper instrumentalisées, elles sont toujours là entre paysans, enfin entre agriculteurs, enfin entre différents modèles agricoles, entre les citoyens et les agriculteurs. Je pense qu'il y a pas mal de citoyens dans la salle et moi je suis très heureuse de ça, qu'il ne faut pas tomber dans le panneau ni de l'agrivoltaïsme, ni du fait de cette opposition que les citoyens comprennent en agriculture et sont contre les agriculteurs, les riverains et tout. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment créer un récit différent autour de ça. Et évidemment, ça a déjà été évoqué et ça, y a toujours eu un deux poids, deux mesures entre le traitement réservé à la Confédération paysanne et dans l'écoute des propositions qu'on peut faire et dans la répression et celui fait à la FNSEA. Maintenant, c'est carrément une caricature du truc. La FNSEA va avec des tracteurs devant l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée, le ministre va les voir. Nous, on va sur le périph ou on va au ministère. On se prend une journée, une nuit de garde à vue. Enfin, on en est à un point. C'est aussi du jamais vu, ce deux poids, deux mesures. Voilà, c'est au-delà de ce que c'est difficile pour nous, c'est quelque part extrêmement inquiétant en termes démocratiques. extrêmement inquiétant et pour ce qui nous arrive peut-être ensuite. Ce que je voulais dire, je suis désolée, je n'ai pas réussi à le faire dans l'ordre, je voulais dire aussi qu'il n'y a pas de petite lutte. J'ai parlé de très grande lutte. Enfin, voilà, qu'on connaît tous. Mais une lutte pour essayer de consolider des jeunes qui s'installent, pour grappiller un peu de terrain. Une lutte, moi, je pense à une, à un moment très beau dans mon département, où on a juste lutté 2-3 semaines pour faire en sorte que des nouveaux installés aient une place sur le marché pour vendre leurs produits. Des choses qui peuvent sembler toutes simples, mais il a fallu qu'il y ait une dizaine de personnes qui y aillent, qui se bougent, qui aillent prendre la place, qui affrontent le policier municipal, qui négocient avec tout le monde. Et c'est une lutte de gagner, il n'y a pas de petite lutte non plus. Celles-ci, elles font partie de l'ensemble. Et se dire aussi qu'à la Confédération paysanne, on sait depuis le début que l'aspect lutte, l'aspect action, désobéissance, plus ou moins radicale, c'est hyper complémentaire. Enfin, ce n'est pas que c'est complémentaire. Ça va de pair avec un travail de construction d'un projet et de proposition. On en a sur l'eau, on en a sur l'installation, on en a sur le foncier, des propositions pour consolider l'agriculture paysanne. Et qu'on ne peut pas avancer sans ces deux pattes-là, en fait. Et en essayant de ne pas se faire de croche-pattes. Parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de victoire. Et des victoires, on en a eu et on en aura encore. Sans un rapport de force, du coup, voilà, c'est toujours un peu les deux versants, j'allais dire, un peu de la même chose. Et peut-être pour se projeter là dans... Donc, il y a cette grande histoire de lutte. On a parlé d'OGM, d'eau, de foncier, de revenus. Là, ces temps-ci, là, cette année-ci, là, là où on est en plein dedans, bon, les OGM, ça continue avec cette fameuse déréglementation. C'est après-demain à Strasbourg que ça se joue, justement, de déréglementer les nouveaux OGM, qui en fait faire venir des OGM. Les grandes luttes depuis un an, elles sont dictées par notre histoire, mais aussi par l'actu. C'est beaucoup sur les pesticides. C'est un sujet sur lequel on a toujours travaillé. Je vous parlais du travail avec le vivant. Mais là, entre Duplon, Omnibus, la loi d'urgence, et puis des convergences nouvelles, tu l'as un peu cité, il y en a toujours eu. Voilà, que de plus en plus de médecins, de malades. Alors, il y avait les paysans victimes des pesticides. Depuis longtemps, c'est une lutte sur laquelle on travaille beaucoup et la FNSEA est notre plus grand obstacle, qui ne veut jamais reconnaître les maladies professionnelles, qui veut chaque fois amoindrir les indemnités que toucherait un paysan qui aurait une maladie professionnelle due à l'utilisation des pesticides. Enfin, on en est là quand même. Mais là, voilà, de voir des gens comme Cancer Colère, des médecins qui s'impliquent, moi, ça a été une des choses qui m'a fait très chaud au cœur ces derniers mois, en fait. Donc voilà, dans l'actu chaud bouillante, on va dire, il y en a beaucoup, mais je pourrais quand même citer les pesticides. La lutte contre les accords de libre-échange qui n'a jamais cessé, on s'en prend quand même plein la gueule en ce moment, le Mercosur qui a été qui a été mis en application provisoire, il n'est pourtant pas encore accepté par l'ensemble du Parlement européen. Voilà, les sujets, ils sont incessants. Je voudrais dire aussi qu'on s'engage comme beaucoup d'autres sur une lutte. Je ne sais pas trop comment la caractériser contre l'extrême droite, en fait, contre la montée de l'extrême droite dans les campagnes, dans le milieu agricole. Alors, il y a une chose qui est assez facile à dire. Là, je parle en mon nom propre, je vais le dire comme ça plutôt. De dire qu'on est tous antifa, ça, c'est une chose. Mais ça nous oblige aussi... avoir des propositions. Nous, on pense qu'on en a à la Confédération paysanne, mais il faut encore qu'on y travaille, des propositions qui permettent à des paysans, à des habitants de la ruralité, et puis un peu tout le monde, de croire en un autre modèle qui soit moins... qui est quand même un peu plus compliqué. On n'a pas des réponses simples, simplistes et populistes, mais quand même de faire en sorte que les gens puissent se dire « Ah ouais, il y a une autre alternative que l'extrême droite, en fait, pour mieux vivre dans nos campagnes. » Sur ces questions, du coup, on aborde tout, les services publics, la mobilité, l'accès à l'alimentation, toutes ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose dont on a hautement, enfin, je pense tous dans cette salle, hautement conscience, et c'est un sacré défi en ce moment. Je pense pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis aussi, tordre un peu l'idée, on nous fait un peu croire que les campagnes seraient toujours réac à droite. C'est pas vrai. L'histoire a montré que c'est pas vrai. Ça aussi, c'est un récit qu'on veut nous faire croire qu'il y a une fatalité, que c'est ça le monde des campagnes. Eh ben non, le monde des campagnes, il est beaucoup plus divers que ça aussi. Il y a beaucoup de terres où il y a aussi beaucoup d'accueil, beaucoup d'initiatives. Et ça, il va falloir réussir à le faire vivre, à le faire voir et à convaincre des gens d'essayer de ne pas tomber dans les bras du populisme et de cette simplicité et du fascisme et de l'extrême droite. Voilà, je pense que ça, il y a un sentiment d'urgence. qui est le nôtre sur ces sujets-là, qu'il va falloir qu'on travaille aussi tous ensemble. Et ce que je voudrais dire, je l'ai déjà un peu dit, c'est que des victoires, on en a eu. Les OGM, c'est quand même une victoire retentissante. Le Larzac, des gros trucs, hein, Notre-Dame-des-Landes, et puis des plus petites et des plus grandes, qu'il y a toujours, malgré le contexte qu'on décrit, et on le connaît bien en fait, on n'est pas naïf, on sait pourquoi cet agenda il s'accélère contre l'environnement, contre le droit du travail, contre notre rémunération. Mais des victoires sont possibles, il y en aura des petites et des grandes de possibles, qu'on est nombreux, que ces alliances qu'on essaye de tisser, qui ont eu lieu à un moment ou à d'autres, il faut continuer à les entretenir et à les dynamiser. On en a plus que jamais besoin, qu'il va falloir, parce que je le redis, on n'est pas très nombreux les paysans en fait, en vrai. Très objectivement, on a un mal de chien à être présent dans les conseils municipaux, même de communes très rurales, par exemple, parce qu'on croule le taf sous nos fermes, parce que voilà. Et qu'il va falloir qu'on continue ensemble. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et qu'on lâche rien et que du coup, on va continuer à débattre ensemble. Merci. Ouais, et l'agrivoltaïsme, on en parlera à l'autre table ronde. On va. Du coup, on est tout. Je vais essayer de bien traduire ce qu'on s'est dit au comité national. On va déjà faire des propositions pour tout le monde. On va mettre sur la table ce qui nous semble important en ce moment pour l'agriculture paysanne. Normalement, la Confédération paysanne ne se prononce pas en faveur d'un parti. Et je vois aucune raison qui ferait que ça dérogerait dans le futur.
Oui, en dépit de l'urgence, parce que la dernière fois avec le NFP, c'était déjà en dépit de l'urgence. Ça a été un petit peu fait en Aveyron, et en fait, c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. On peut avoir le droit, enfin, ça peut être choqué ce que je vais dire, mais à la rigueur, tant mieux. S'il y a quelqu'un qui est de droite et qui est pour le projet de la CONF, mais qui ne vote pas le parti pour lequel beaucoup de gens vont voter, puis même à l'intérieur de la CONF, il peut y avoir des gens qui préfèrent voter, je ne sais pas, autre chose que... Après, on n'est pas naïf non plus sur les gens qui reprennent nos propositions, quoi. Donc, on pourra dire ça, ben, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, je te le donne après, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, ben, regardez qui reprend nos propositions et qui ne les reprend pas. En tant que porte-parole, souvent de l'Aveyron, hein, juste, mais on m'a souvent quand même posé cette question-là, et j'ai eu appelé à battre l'extrême droite. Voilà, mais ça va s'arrêter là. En tout cas, pas de consigne pour un parti précis. C'est un peu la loi, parce qu'on doit continuer à exister, même si ce parti est élu, d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, c'est quand même c'est vraiment une ligne rouge, si on peut dire, une base syndicale de rester apartisan. Pas apolitique, apartisan.
J'oublie un truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la Confédération paysanne ne parle pas aux politiques du Rassemblement national, enfin un arc un peu large depuis, bon bref, droite, depuis Ciotti, enfin bref, vous voyez. On tient cette ligne, on ne parle pas à ces parlementaires-là, on ne répond pas à leurs demandes, on en est là. Et on ne parle pas non plus à la presse d'extrême droite. Je peux le
dire. Oui, moi, à la CONF, tous les représentants syndicaux, les porte-parole, ceux qui sont membres du comité national et tout, à part sur les élections communales, ne peuvent pas se présenter en politique, par exemple, déjà. Et ne peuvent pas non plus prendre position publiquement, sauf sur les élections très locales. Moi, j'ai été interpellé, amené au moment du NFP, on m'a interrogé et j'ai pris une position, mais j'avais plus aucune responsabilité. Et j'ai dit que pour moi, le NFP, c'était un rassemblement de partis qui me semblait plus souhaitable que les autres, mais je n'avais pas de responsabilité. Ce n'était pas un parti, c'était le NFP. Donc voilà, nouveau front populaire dans lequel les propositions me plaisaient en tant que paysan. Mais je n'ai pas parlé au niveau de la CONF. Quoi. Mais enfin, tout le monde savait d'où je venais, etc. Donc c'était un peu tiré par les cheveux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de... Pour moi, c'était tellement urgent de prendre position. Je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, mais je n'avais plus de responsabilité syndicale, donc je pouvais me le permettre. Mais normalement, la CONF, en tant que telle, ne peut pas le faire. Et c'est souhaitable. C'est très souhaitable. Mais c'est vrai que des fois, ça démange. Hein. Surtout quand on sait que l'un des partis qui se présente, toutes ces propositions sur l'agriculture ont été faites par des anciens de la CONF. Quoi. Donc c'est difficile. Alors, je voudrais rebondir sur l'histoire des baux de carrière, puisque personne ne demande la parole tout de suite. Sur le Larzac, donc, comme on a gagné la lutte, on a gagné aussi un bail emphytéotique de l'État sur les 6500 ou 6800 hectares que l'État avait réussi à acquérir, à exproprier des propriétaires non paysans. Donc ces terres-là, on les a gardées, nous, puisque l'État, à ce moment-là, a accepté. Bon, ça n'a pas été facile à l'époque, mais politiquement et tout, ils ont été obligés d'accepter parce qu'il y avait quand même une promesse avant les élections, et que je pense que si Mitterrand a gagné, c'est en grande partie grâce au Larzac et à Plogoff, parce qu'il a promis qu'il arrêtait ces deux projets. Et je pense que ça a fait le 1 ou 2% qu'il a été en plus. Mais bon, moi, ça n'a jamais été prouvé, mais je suis persuadé qu'il a joué fort là-dessus. Et donc, il devait quand même quelque chose, et certains ministres, comme Mauroy, ont mis leur statut de Premier ministre Mauroy en jeu en disant « Si tu ne fais pas le truc sur le Larzac, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Hein. » Je démissionne, quoi. Donc, il l'a fait contre l'avis de Charles Hernu, qui voulait que l'armée prenne un morceau, etc. Enfin, bref, depuis, on gère, depuis maintenant une quarantaine d'années, depuis 85 à peu près, puisqu'on a mis 4 ou 5 ans à monter la société civile des terres du Larzac, qui est donc gérée par les fermiers et les locataires de maisons, parce que l'État avait acheté des hamontiers, quoi, qu'on a loués à des gens qui ne sont pas forcément paysans. Donc, on gère tout ça, et on choisit... On donne des baux de carrière donc aux gens qui arrivent. Ils peuvent rester jusqu'à leur retraite, jusqu'à 65 ans, sans qu'on ait le droit de leur reprendre la ferme. Et ils n'ont pas à acheter la ferme, ils n'ont qu'à la louer et à faire une reprise de valeur d'usage. On appelle ça la valeur d'usage, que nous, on calcule sur ce que le fermier a apporté comme amélioration, parce qu'il y avait beaucoup de fermes en ruine. Ce n'était pas que des bonnes fermes. Sur le Larzac, il y avait aussi des trucs abandonnés. Et donc, si le fermier a refait le toit, il a refait, etc., il ne paye pas de bail sur la maison. C'est gratuit. Mais celui qui rentre doit racheter la valeur résiduelle de ces travaux-là. Souvent, 40 ans après, il ne reste pas grand-chose de valeur résiduelle, d'autant plus que le gars n'a pas payé le loyer. Donc, on pense que, voilà, grosso modo... Mais il y a un calcul qui a été fait avec des très, très sérieux, avec des points par mètre carré de crépi, mètre carré... Si le mec, il a mis des robinets en or, on va pas lui payer des robinets en or, on va lui payer un robinet, point. Par exemple, mais qui a 30 ans d'âge, donc il ne vaut plus rien. En fait, tout ça, c'est la valeur d'usage, et qui reprend le fermier quand il arrive. Et s'il y a eu des clôtures de fête qui sont encore en bon état, il y a aussi une estimation, etc. Et donc, tout ça, ça prouve que les offices fonciers, on avait dit à l'époque au pouvoir, vous avez prévu de faire des offices fonciers, on veut bien être le premier. Et donc, on l'a créé, nous, parce que l'État ne nous a pas du tout aidé. Les communes étaient dedans au début, dans la SCTL, mais finalement, elles n'ont pas joué le jeu. Parce qu'il y a une quinzaine de communes concernées quand même sur cette surface. Et donc, on finit par être que les fermiers, quoi. Et les fermiers et les locataires non paysans, qui sont à peu près la moitié. Il y a 80 baux à peu près. Donc, il y en a 40 de maisons et puis 40 de fermes. Donc, à peu près, parce qu'il y a sur des fermes, il y a deux personnes. Donc, voilà, ça fait à peu près ça. Et donc, ça marche. Ça marche très bien. L'exploitation, c'est pas le mot. La gestion d'un commun, c'est pas facile, mais je veux dire, c'est faisable. C'est faisable et ça se fait avec les gens qui sont concernés. Et ça marche, quoi. Ça marche, c'est vraiment une autogestion du foncier qui fonctionne sur le Larzac depuis 40 ans. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on en entend. Il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps sur les communs au Sénat. Personne n'a parlé de la SCTL, quoi. C'est le seul commun en France qui fonctionne vraiment, quoi. Et même en Europe. Donc voilà, il y a. Mais ça, parce que comme ça marche à Notre-Dame-les-Landes, par exemple, quand on a été nous leur parler avant qu'ils gagnent la lutte de comment fonctionner, ils ont proposé ça au département, parce que c'est le département qui est propriétaire des terres, Notre-Dame-les-Landes, ah, ils ont dit non, pas un second Larzac. Quand même, on ne va pas prouver que c'est possible, que c'est possible de gérer en commun les terres. Ce n'est pas possible, on ne va pas faire ça du tout. C'est vraiment ça, comme ça qu'ils l'ont ressenti et que nous, on l'a ressenti. C'est-à-dire que notre expérience, elle ne peut pas être profitable parce que c'est une expérience d'autogestion trop révolutionnaire. Et ça fonctionne. On a, à chaque fois qu'une ferme, on arrive au moment où il y a plein de gens qui prêtent à la retraite depuis quelques années, à chaque fois qu'on a une ferme à céder, on fait un appel de candidature, on a entre 6 et 10 candidats. C'est-à-dire que s'il n'y a pas acheté la ferme, s'il n'y a pas à mettre 500 000 ou 1 million d'euros, il y a des candidats, il y a des jeunes qui veulent s'installer et qui veulent s'installer sur des projets aussi, même s'ils sachent qu'au départ, toutes ces fermes-là, elles ne s'agrandiront jamais parce qu'elles sont bloquées. On ne peut pas les agrandir. On a interdit ça, quoi. Et si on sait aussi que les droits à prime ne sont pas vendables. C'est-à-dire que le gars qui part, il a eu tant de droits à prime, il ne peut pas les revendre. Mais ailleurs, le mec qui part, le fermier, il peut revendre ses droits à prime. Voilà, ça, c'est, je peux vous en parler un peu plus, mais c'était une expérience de gestion du foncier différente.
Je pense qu'à la Confédération paysanne, clairement, on ne veut pas être des cultivateurs de kilowatts ou de mégawatts. Ce n'est pas du tout ça, la fonction qui est la nôtre. On ne veut pas non plus être des jardiniers sous des panneaux, très clairement. Du coup, je vais un peu dire des choses. La table ronde, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, elle est là-dessus. C'est aussi moi qui vais beaucoup parler. Du coup, je vais répéter un peu des choses. Mais si des gens n'étaient pas là, on partage cette vision que ce déferlement de panneaux sur nos terres, comme celui de la méthanisation, comme celui des agrocarburants, il est intrinsèquement lié à une vision du monde, comme tu le dis, à une vision de l'agriculture pour ce qui nous concerne de surmécanisation, de robotisation, de numérique, de robotique génétique, enfin tout ce bazar-là. Et du coup, ce n'est pas du tout la vision qu'on partage. Nous, on réfute complètement ça. Pour nous, les terres, c'est la priorité absolue, c'est pour de la souveraineté alimentaire. Et bon, ça a des conséquences trop graves, mais je les décrirai plutôt tout à l'heure dans la prochaine table ronde. Et que de la même façon, c'est volontaire qu'on n'en a pas parlé tout de suite pour en parler après. De la même façon, c'est des luttes où, évidemment, nous, on a un intérêt à être très présent pour défendre notre métier et notre travail. Et c'est un intérêt hyper convergent avec celui des citoyens qui se soucient des questions d'énergie, des questions de biodiversité, enfin l'ensemble de ces sujets. Et dire aussi, je me répéterai mais tant pis, que si on a l'impression, parce que c'est peut-être pas si vrai, que ce déferlement de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles mais aussi naturelles et forestières est possible, c'est parce que un grand nombre d'agriculteurs sont en très grande difficulté économique. Ça, c'est la réalité. On ne va pas se le cacher. Mais que pour nous, c'est en aucun cas une solution et que ça va en plus aggraver les difficultés de ces paysans et de ces territoires agricoles-là. Donc, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue extrêmement grave et sur lequel je pense que dès le début, des paysans, la Confédération paysanne, de façon locale, s'est impliquée et au niveau national. Mais c'est vrai que je préfère... on va s'en parler dans une heure. Après, moi, je vais intervenir dans l'autre... table, mais si tu veux...
C'est juste sur l'historique. Au comité national de la Confédération paysanne, on a voté, c'est moi qui avais rédigé le texte à l'époque, je m'en rappelle très bien, de 2012, enfin une quinzaine d'années, quoi. Un texte disant qu'on s'opposait au photovoltaïque au sol, qui avait assez de place sur les toits déjà, quoi, et qu'on ne pouvait pas entrer en concurrence avec les terres agricoles. Et le principal argument, c'était que le prix des terres allait monter, le prix des fermages allait monter, et que du coup, ça serait encore de plus en plus difficile pour des jeunes de s'installer. Donc voilà, c'était déjà clair en 2011-2012, quoi, je ne sais plus la date exact. Et le texte était très clair et j'avais demandé qu'on vote ce texte parce que sur le Larzac, on avait un projet de 400 hectares de photovoltaïque au sol, le projet sur le Larzac qui n'a pas été accepté par les élus, etc., mais qui maintenant est descendu à 200 hectares et ils essayent de reproposer autre chose. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui que la Conf est soucieuse de ça, mais en 2011-2012, tous les départements n'avaient pas entendu parler de ça, quoi. Il n'y avait pas des projets partout. C'était vraiment nouveau. Et ce n'était pas encore de l'agrivoltaïsme. Ils ont essayé de contourner ces refus par l'agrivoltaïsme. Donc on va en parler tout à l'heure, mais l'agrivoltaïsme, c'est une vaste fumisterie. À une voix près, on a failli voter contre au Parlement. Et il y a eu deux ou trois députés écologistes qui ne sont pas venus. Et ça, moi, je leur en veux beaucoup, parce que pour eux, voilà, le photovoltaïque, quoi qu'on fasse, c'est mieux que n'importe où plutôt que le nucléaire. Donc il fallait qu'ils votent cette loi et qu'ils soient avec nous pour ça. Mais ils n'ont pas été avec nous à ce moment-là. Et je leur en veux encore. Je ne dirais pas les noms, mais... C'était un projet d'Aurélie Trouvé, enfin, de la France Insoumise.
On continue à travailler beaucoup sur cette question du droit d'usage plutôt que le droit de propriété. Sinon, on n'y arrivera jamais, en fait. C'est tellement vu comme une valeur capitalistique, le foncier et le vivant. Et c'est tellement dramatique. Alors, soit on occupe vraiment les terres, pourquoi pas, à certains endroits, carrément, parce qu'on n'y arrivera pas. Si on arrive juste à s'installer sur un hectare et faire du maraîchage, il va falloir reprendre des surfaces pour produire en agriculture paysanne, pour nourrir les gens et préserver le vivant et préserver l'avenir, en fait, clairement. Et il y a des combats qu'on mène indirectement qui peuvent vous sembler hyper techniques, parce qu'il y a des... il y a vraiment des outils et des politiques qui ont fait qu'on en est arrivé là, forcément. Bon, l'ultra-capitalisme, la dimension patrimoniale, mais aussi les aides de la PAC, par exemple, qui ont largement contribué à renchérir, à ce que faire que les fermes s'agrandissent. Les gens, ils cherchaient à accaparer de la terre, pas pour produire, pour accaparer des aides de la PAC. Donc, si on change ça, on intervient beaucoup, on essaye. Alors, on pèse ce qu'on pèse à la Confédération paysanne, de changer complètement les règles de répartition de la PAC. Plutôt vers rémunérer les actifs, les hommes et les femmes qui travaillent, que les surfaces. Voilà, ça, c'est un autre combat historique. J'aurais pu en parler de plein. Justement, pour sortir les terres de ce... Enfin, une partie de la financiarisation des terres de ce cycle-là. S'opposer au photovoltaïque, c'en est une autre. D'autres questions, c'est hyper ardu et hyper chiant, c'est la fiscalité. le fait qu'en fait, on rémunère le patrimoine, on l'exonère de fiscalité. Tout ça, ça contribue. Enfin, c'est tout ce que je veux dire, mais on le sait tous, c'est que c'est hyper systémique ce qu'on subit là et qu'on est obligé à chaque génération de racheter des fermes qui, à chaque fois, valent le double ou le triple et que c'est plus possible, en fait. Ça demande une révolution totale dans la façon des politiques agricoles et d'envisager les communs et comment on les gère. On n'a pas la solution à tout, mais ça passera sûrement par un panel de choses et des fois aussi d'occuper les terres, probablement.
Au moment du Covid, là, il y a eu une espèce de fol espoir comme quoi plus ne serait jamais comme avant. Il s'était ouvert des marchés, alors plus de plein air, c'est des marchés de plein vent pour que le microbe se promène mieux, tout ça, faire peur à tout le monde un petit peu. Enfin, on a tous vécu ça. Et effectivement, quand on est un petit peu sorti du Covid, bah, dès que ça a été interouvert, les gens sont repartis à Lidl. Et le marché qu'on avait ouvert de cette Boselli à corps et à cri, voilà. Et c'est pareil, moi, pendant toujours le Covid, la CAF m'appelle pour me dire la conf, là, ça serait bien quand même, si vous connaissez des producteurs qui sont en vente directe pour faire des colis pour nos prestataires familiaux. Alors, au début, je dis super, la CAF se met à vouloir faire de l'agriculture paysanne. Quelque chose me dérangeait, mais je ne savais pas quoi. Je dis, mais je vous rappelle. Et demi-heure après, je rappelle, je dis, écoutez, vous êtes bien gentil, ça fait 20 ans que vous êtes en train de nous faire crever tous, là. Alors, les gens qui sont en vente directe, ils sont déjà sursaturés. À l'époque, ils n'arrivaient pas à fournir. Et les gens qui ne sont pas, faut, comme tu l'as dit, Josie, tout à l'heure, il faut des abattoirs, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a une urgence du jour au lendemain. Comme là, il y aurait Hormuz ou comme ça. On nous a fait croire à l'époque qu'il y avait les dauphins, c'était très joli, qui revenaient dans les canaux de Venise, on nous racontait un nombre de conneries assez considérables, mais on n'a pas réglé sur le long terme ce genre de choses. Pourquoi les gens vont à Lidl? Souvent, c'est question de financement. Donc, on revient tout à l'heure sur le choix de société. Il faut des bons salaires. Parce que la PAC, c'est une arnaque quand même énorme. Au départ, les aides que reçoivent les paysans, c'est pour pouvoir exporter au cours mondial. Toujours à peu près là-dedans. Donc, le contribuable, que nous sommes tous, que vous êtes, que tout le monde est, finance la PAC. C'est les impôts des gens. La PAC, ça ne vient pas du ciel. Hein, c'est pas, voilà. Pour que l'industriel puisse acheter aux paysans à pas cher, et il était censé revendre à pas cher aux consommateurs. Bon, vous savez tous, les prix font... Chut. Voilà, donc il y a une triple arnaque. Donc il y a tout ça à démonter. C'est considérable, en fait, ce que tu dis, et c'est sûr qu'on est face à un rouleau compresseur et qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. C'est vrai que si la CR et la FNSE... Ah, c'est la CR, allez, ouais. A eu plus d'audience que la conf récemment, c'est que la classe médiatique, la classe bourgeoise, a choisi qui, s'il devait y avoir succession, succéderait à l'FNSEA pour faire la même chose, surtout, et continuer à conserver les intérêts des agro-industriels. Et la seule chose qui propose comme solution à tous nos problèmes, vous avez tous compris, c'est l'IA. Donc, c'est pour revenir, tu disais qu'on n'avait pas beaucoup parlé du photovoltaïque tout à l'heure. Au CN, on a parlé il n'y a pas longtemps, ils veulent faire un data center là, de 90 hectares. Plusieurs même. Enfin, là, celui-là, c'était Romain Henry qui nous a parlé dans l'Indre-et-Loire. La consommation, alors ils n'ont pas l'eau hein, pour refroidir tout ça, mais la consommation d'électricité, c'est là où je vais en venir, c'est la population, c'est le doublement de la consommation actuelle de l'Indre-et-Loire. Je crois qu'il y a 278 000 habitants, un truc comme ça, ben, fois deux. Pour nourrir ce machin, juste pour... on est un peu tous coupables de regarder nos smartphones, de voilà, faire l'intelligence artificielle. Voilà, on n'est pas obligé non plus de s'y mettre, mais c'est compliqué de résister à tout ça parce qu'il y a une espèce de vague générale, la pub, la télé, les politiques, tout le monde pousse dans ce sens-là. Et nous, ça fait 25 ans, même plus, pour moi 25 ans, mais pour les autres beaucoup plus, qu'on rame un petit peu à contresens de tout ça, mais on a l'impression des fois qu'on ne va pas y arriver, mais les copains de la CGT, ils ont une bonne phrase qui dit « Si on est là, on les freine. Si on n'est pas là, ils nous écrasent. »
Juste un mot sur les semences. C'est important que tu en aies parlé quand je parlais au début d'autonomie et tout. Je pense que, et symboliquement, mais surtout très concrètement, les semences paysannes, de garder des semences, des variétés les plus diversifiées possibles, c'est au cœur de l'agriculture paysanne, c'est au cœur de la souveraineté alimentaire telle que nous on l'entend. Et du coup, c'est un acte de résistance absolument vital et indispensable. Le problème, c'est que tu as raison, on est dans la merde. Parce que du coup, économiquement, enfin, c'est hyper dur. Ce taf-là, il n'est pas reconnu. Ce n'est pas seulement qu'il n'est pas reconnu et pas rémunéré, c'est qu'en plus, on est écrasé par le lobby des semences et des OGM et des licences et des brevets et toute cette merde. Mais je pense que tous ici, on est nombreux à savoir combien c'est important de préserver ces semences et que ça devrait absolument être putain d'intérêt général majeur, ce truc, plutôt que les autres conneries. Mais voilà, ça, c'est des visions du monde qui s'affrontent complètement. C'est ça, l'intérêt majeur de l'agriculture, c'est de préserver ses semences, pas les projets délirants qu'on a en face.
Moi, je veux bien aller, parce que j'ai pas été tout à fait complet tout à l'heure, pour dire que c'est un choix de société, évidemment, que c'est aussi un choix de conscientisation de tout le monde, et donc de discuter tout le monde avec tout le monde, ça a été dit aussi, et d'éducation, bien sûr. J'en profite parce que je vois Bertrand qui est là et il y a déjà 30 ans, plus de 30 ans en fait, dans les collectivités, vous savez, c'est comme quoi c'est tout cousu de fil blanc. C'était interdit de manger des œufs fermiers, par exemple. Il y a 30 ans, hein, je parle. C'était, vous savez, ces œufs filmés, là, en saucisson, que tu coupes comme ça et ça fait des œufs durs, tu fous ça, bouillir ça dans l'eau. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Presque par rapport à ça, voilà, il y a de l'espoir, quoi. Il faut, voilà, c'est de la merde en papier, qui vient en plastique, qui vient du détroit d'Hormuz. Voilà, on n'a pas envie de bouffer du plastique, des œufs, on casse la coquille, on le redonne aux poules, et puis comme ça, nous refont des œufs.
Ouais, merci pour ces témoignages. Ça montre bien que les solutions, on les a en fait. Elles sont déjà là, elles sont entre nos mains. Il faut juste, et c'est ça tout le problème, les massifier et les rendre systémiques, à l'inverse du système qu'on nous impose en fait. Mais voilà, il y a vraiment plein de voies d'espoir possibles, effectivement.